On va juste prendre quelques minutes ensemble dans les Saintes Écritures pour essayer de répondre à une question. Vous avez entendu déjà en bonne partie la réponse à travers ces témoignages. On veut se pencher sur la parole de Dieu pour réfléchir encore un peu plus, pour voir si Dieu n'a pas un message pour vous ce matin. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 25, on lit « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » On va se courber ensemble dans une prière. Seigneur Jésus, merci pour ces beaux témoignages. Merci pour cette manifestation de ta puissance, Seigneur. De ce que par ton esprit, tu peux rendre ces choses accessibles, compréhensibles, à l'homme pécheur, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu révèles le Père, tu révèles l'Évangile, comme tu le dis si bien dans ce passage. À qui tu le veux, Seigneur? C'était bon d'entendre ces témoignages, Seigneur. Nous comprenons maintenant pourquoi ces gens passent par les eaux du baptême. Nous savons, Seigneur, que tu es entré dans leur vie pour révéler ta personne, Jésus-Christ. Le seul chemin. Ma prière, Père, c'est que tu sois avec nous maintenant ce matin. Tous les autres, déjà nous savons que tu es avec José, Viviane et Edna. Nous l'avons entendu de leur bouche. Ma prière, Seigneur, c'est que tu sois avec nous, tous les autres dans cette salle. Et à ceux d'entre nous qui ne connaissent pas le Fils, à ceux d'entre nous qui ne connaissons pas le Père, qui n'avons pas saisi l'Évangile, qui ne sommes pas venus à Jésus-Christ. Ma prière, Seigneur Jésus, c'est que tu viennes te révéler et que tu attires à toi. Sois avec ma bouche, Seigneur. Je n'ai aucune puissance pour donner la vie à celui qui est mort spirituellement, Seigneur. C'est toi qui possèdes cette puissance. Alors parle, Seigneur, à travers ton serviteur. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen. J'ai une question pour vous ce matin, et vraiment, on va juste prendre quelques minutes ensemble. Qu'est-ce qui attire une personne à Jésus-Christ? Qu'est-ce qui attire une personne à Jésus-Christ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va aller jusqu'à prendre position publiquement pour passer par les eaux du baptême? Parce qu'il faut quand même être conscient, on vit en 2000 après Jésus-Christ. Personne ici, ni Viviane, ni Edna, ni José, ni aucune personne qui est passée par les eaux du baptême ici, n'a vu en chair et en os Jésus-Christ. Nous vivons en 2008. Ça fait un bout de temps, ces histoires-là. Ça fait un long bout de temps que c'est passé. Et nous vivons à une époque dans une société qui se dit des plus évoluées. On a le confort, on a la science, nous avons la médecine, les loisirs, les conventions collectives, les hôpitaux, l'argent, les vacances, les voyages, la retraite. Qu'est-ce qui attire ces gens, ces trois personnes, à Jésus-Christ en 2008, en Amérique du Nord? Pour qu'ils osent aller jusqu'à prendre position publiquement et passer par les eaux du baptême. Qu'est-ce qu'une personne qui vit dans une telle société peut-elle trouver en Jésus-Christ qu'elle n'a pas trouvé ailleurs? Le repos. Le repos. Jésus dit au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je crois que c'est juste de dire que toutes les personnes qui sont venues à Jésus-Christ dans cette salle et à travers l'histoire de l'humanité, tous ceux et celles qui sont venus à Jésus-Christ l'ont fait pour trouver le repos. Sous différentes formes. Mais tous, c'est pour trouver le repos qu'on est venu à Jésus-Christ. Le dictionnaire Antidote, Normand, s'en sort de ce temps-ci. Je trouvais qu'il donnait une super belle définition du repos. Écoutez bien ça. Antidote dit que le repos, c'est l'état d'une personne qui est sans inquiétude, que rien ne vient troubler. Le repos, c'est l'état d'une personne qui est sans inquiétude, que rien ne vient troubler. J'ai envie de dire que c'est le repos de l'âme, ça. Non? Ça, c'est le repos de l'âme. Et Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'y a rien de plus précieux que vous allez pouvoir trouver dans cette vie, sur cette terre, que le repos de l'âme. Rien de plus précieux. » Alors, quel est ce repos que Jésus offre? Parce que si j'ai bien regardé les chrétiens vivre, et si vous êtes dans une famille chrétienne, si vous êtes fils ou fille de chrétiens, vous les regardez aller, ça ne prend pas beaucoup d'observations pour réaliser que les chrétiens passent par la maladie, comme ceux qui sont sans Jésus-Christ. Les chrétiens perdent leur emploi, comme ceux qui sont sans Jésus-Christ. Les chrétiens font face à la mort, comme ceux qui sont sans Jésus-Christ. Les mêmes épreuves nous attendent. Et des drames familiales, et des crises, et des divisions, et des luttes. J'ose dire comme ceux qui sont sans Jésus-Christ. Alors, quel repos Jésus a-t-il à nous offrir? Et quel est le repos qu'il nous promet ici, si les chrétiens doivent subir les mêmes épreuves que les autres dans la vie? Et en plus de ça, si vous côtoyez des chrétiens depuis un bout de temps, soit dans votre famille, soit chez des amis, vous les regardez aller et vous dites, en plus de cela, ces gens-là portent le poids de suivre les commandements de la parole de Dieu. En plus de cela, quand ils ouvrent la bouche pour parler de Jésus, certains vont se moquer d'eux au travail, à l'école. Alors, quel est ce repos que Jésus promet? J'ai essayé de le résumer en quatre repos, d'accord? Que je pourrais vous montrer à travers toutes sortes de textes, mais je vais le faire rapidement ce matin. Quatre repos qui illustrent le repos que Jésus promet, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Premièrement, le repos de la religion. Jésus-Christ est venu donner le repos de la religion pour nous offrir, au lieu de cela, une relation. Et si vous avez été attentif au témoignage que vous avez entendu tout à l'heure, c'était très clair que ces gens-là sont entrés dans une relation intime avec Jésus-Christ. Dans le contexte de l'époque, au moment où Jésus vient, les gens se sont fait présenter un système religieux rempli de lois, toutes sortes de lois qu'ils devaient observer. Et s'ils observaient à perfection toutes ces lois, en principe, ça devait leur assurer de plaire à Dieu. Ce n'est pas ça le christianisme. Cette semaine, le gouvernement canadien a posé un geste absolument incroyable et tous les chefs d'opposition l'ont fait avec lui. Vraiment, je leur lève mon chapeau. Ils ont offert des excuses au nom du Canada, en notre nom, aux 150 000 enfants autochtones qui ont été arrachés, généralement de force de leur foyer, de relations précieuses, pour être envoyé dans des institutions où il y avait toutes sortes de lois, et souvent toutes sortes de lois religieuses. Ça n'a absolument rien à voir avec le christianisme. Ce n'est pas ça que Jésus est venu offrir. Si seulement, au lieu de poser des gestes abominables comme ceux-là, on était allé leur annoncer la relation avec Dieu qu'il y a en Jésus-Christ. Voyez-vous, Jésus est venu offrir le repos d'une religion pour nous annoncer une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est le premier repos qui ressort de ce passage. Et c'est le repos d'une relation personnelle avec un Dieu compatissant qui connaît nos luttes, ça ressortait dans les témoignages tout à l'heure, qui connaît nos combats, qui connaît les montagnes de nos vies à traverser, qui a compassion de nos luttes, de nos faiblesses, et qui est venu justement offrir la solution à nos péchés. Le deuxième repos que je vois ici, c'est le repos du péché. Le péché existe. Vous avez juste à allumer la télévision, vous avez juste à regarder les nouvelles pour voir toutes sortes d'abus dans le monde. Ce sont des péchés. Maintenant, il est facile d'être lucide et même d'être découragé en regardant le monde autour de nous. La génération qui me suit est une génération souvent découragée. Et celle qui la suit encore plus. Je pense que c'est parce qu'elle est très lucide sur l'état du mal dans le monde. Je pense que les jeunes, vous êtes très ouverts et très éveillés aux problèmes qu'il y a dans le monde. Maintenant, à cette lucidité-là que vous avez, parce que vous êtes tellement informés, ajoutez un peu d'humilité, un peu de sagesse, pour réaliser que ce mal-là, ce péché-là, n'est pas seulement à l'extérieur de vous. Il n'est pas juste là-bas, en dehors, dans le monde. Il est à l'intérieur de nous. Ça s'appelle le péché. Et c'est juste ça qui est reflété partout dans le monde. C'est ce mal qui est à l'intérieur de nous qu'on appelle le péché. Il vient ici, mise dans nos relations. Il vient apporter déformation à tout ce qu'on voudrait faire de bien. Il va s'immiscer dans les meilleures institutions. Il y a des belles institutions dans le monde et à tout moment donné, il y a des scandales qui sortent. C'est juste le péché qui est en train de faire son œuvre. Il vient défaire tout ce qu'on voudrait faire de mieux. On l'appelle mensonge, égoïsme, convoitise, rébellion, découragement, jalousie, médisance, débauche, abus, paresse, indifférence, etc., etc., etc. Voyez-vous, le paradoxe de l'être humain, c'est de savoir au fond de nous-mêmes que nous sommes des créatures tellement merveilleuses. Allumez la télé et vous allez voir que nous sommes des créatures merveilleuses. Mais le paradoxe, c'est de savoir au fond de nous-mêmes qu'on est des êtres tellement merveilleux et en même temps, lorsqu'on prend le temps de voir et d'ouvrir les yeux, de réaliser qu'on est tellement tortueux à la fois. Ça, c'est le paradoxe de l'homme. C'est le paradoxe du péché. Nous sommes à la fois ce qu'il y a de plus beau, de plus ingénieux, de plus brillant sur la terre, et en même temps les pires ennemis de la terre et de toute la création. De tous les êtres qu'il y a sur la terre, aucun ne peut comprendre la différence entre le bien et le mal, sinon l'être humain. Et pourtant, personne ne fait le mal comme l'être humain. C'est le pouvoir du péché. Il n'est pas juste là-bas, à l'extérieur. Il est à l'intérieur de nous. Et Jésus-Christ est venu nous offrir le repos de ce péché. Ce que le péché fait de pire, c'est qu'il détruit toute communion avec Dieu, notre Créateur. Mais Jésus-Christ est venu nous offrir le repos de ce péché, nous libérer de cela, pour que nous soyons en communion avec Dieu, en paix avec Dieu. Jésus-Christ est venu me libérer de moi-même. C'est ça qu'il est venu faire. Me libérer de ma bêtise, de mes gaffes, de mes péchés, de tes péchés, de toi-même. Pas de tes erreurs. Ça, tout le monde fait des erreurs. C'est pas de ça que je parle. Parce qu'on appelle erreur souvent de la méchanceté, de l'égoïsme, de la bêtise. Jésus-Christ est venu t'offrir le repos de ce péché. C'était là dans les témoignages tout à l'heure. Jésus-Christ est venu nous offrir troisièmement le repos des soucis. Parce que Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Et à partir du moment où je viens à Christ, j'ai un berger qui entre dans ma vie. Un bon berger qui entre dans ma vie. Qui veille sur moi, qui me conduit, qui est au contrôle, même au milieu des tempêtes de la vie. C'est un peu ça que j'ai entendu dans le témoignage de Viviane. Parce qu'au milieu de la tempête de sa vie, elle a trouvé ce berger. Par conséquent, tout ne dépend plus de moi, mais du bon berger qui veille sur moi. Vous savez, c'est troublant de regarder les nouvelles. Le monde va mal, c'est vrai. OK. À partir du moment où je suis à Jésus-Christ, que je suis venu à lui, je vais faire de mon mieux pour aider ce monde qui va mal, mais le reste, je le laisse entre ses mains. Jésus-Christ est venu nous donner le repos des soucis, des inquiétudes, parce qu'à partir du moment où on vient à lui, on ne vit plus pour la vie ici-bas, mais on vit pour l'éternité, parce qu'on sait qu'il nous prépare une place. Jésus-Christ est venu nous donner le repos de la religion pour nous offrir une relation avec lui. Il est venu nous offrir le repos du péché, de nos péchés, de tes péchés, des miens, pour être en paix avec Dieu. Vous le trouverez nulle part ailleurs. Jésus-Christ est venu nous offrir le repos des soucis, des inquiétudes, parce que je sais que j'ai un berger qui veille sur moi. Et enfin, dernièrement, Jésus-Christ est venu m'offrir le repos éternel, la vie éternelle. Jésus est venu offrir le repos de cette vie. S'il y a une génération qui trouve lourd, et c'est difficile pour nous à saisir, hein? Et je ne suis pas si vieux que ça, mais c'est difficile pour les gens plus vieux encore à saisir. Je parle aux jeunes, là. C'est difficile pour les plus vieux de saisir à quel point il y a un grand nombre d'entre vous qui êtes désespérés de la vie et qui trouvez la vie difficile. On a l'impression que tout est offert ici. Jésus-Christ est venu nous offrir le repos de cette vie en nous promettant la vie éternelle. Un monde où le péché ne viendra pas détruire tout ce que nous entreprenons. Il y a toute une différence à vivre mon passage sur terre en me disant qu'il n'y a rien après et vivre mon passage sur terre en sachant que Christ me prépare une place au ciel. Ça change toute la vie, je vous l'assure. Maintenant, Jésus-Christ n'est pas venu offrir ce repos à tous. Il n'est pas accessible à tout le monde. C'est ce que le passage me dit ici. Regardez les versets 25 et 26, je vous les relis. « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Voyez-vous, il y a des gens qui sont trop grands à leurs propres yeux pour recevoir le message de l'Évangile. Il y a des gens de tout âge qui sont trop sages à leurs propres yeux pour recevoir le message de l'Évangile. À ceux-là, lorsqu'on leur annonce le salut en Jésus-Christ, bien souvent un sourire en coin vient sur leur bouche. Ils sourient, ils nous regardent et ils disent... Toi, là, t'es un grand naïf, hein? C'est trop simple. C'est un conte pour enfants, ton affaire. Et c'est justement ça. Ça prend un cœur d'enfant pour recevoir l'Évangile. Ça prend un cœur humble qui reconnaît que le repos ne se trouve qu'en Jésus-Christ et qu'il est possible qu'un Créateur soit venu lui-même, Emmanuel, Jésus, Dieu parmi nous, pour offrir sa vie sur la croix pour mes péchés. Et c'est possible qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Et toutes ces choses qui ont l'air des contes pour enfants, c'est ce qui fait le plus de sens dans notre société. Mais ça prend un cœur d'enfant pour le recevoir. Et c'est juste aux personnes qui sont prêtes à avoir ce cœur d'enfant humble que le Fils va révéler l'Évangile. C'est des seuls. Aux autres, ils sont trop grands à leurs propres yeux pour que Jésus-Christ le révèle. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. La parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ces trois personnes qui sont venues témoigner avaient un cœur d'enfant. Des fois, ils sont venus là à travers des épreuves de la vie. Dieu leur enseignait que par eux-mêmes, ils n'y arriveraient pas. D'autres fois, ils semblaient avoir un cœur d'enfant depuis leur jeunesse. Mais ces gens-là ont accepté d'avoir un cœur d'enfant pour recevoir ce beau message de l'Évangile. Et à ceux-là, le Fils s'est révélé et leur a fait connaître le repos. Et honnêtement, il faut l'expérimenter pour le croire. Il faut l'expérimenter. Ainsi, Jésus-Christ n'est pas venu nous offrir, à nous, chrétiens, un repos des épreuves de la vie. Il n'a pas à faire ça. Les épreuves sont là, les maladies sont là, les cancers vont venir, la mort va venir. Statistiquement, c'est démontré, à moins que Jésus revienne, ça nous attend tout le monde. On va tous y passer, chrétiens, pas chrétiens. Et les épreuves vont être là. Mais Jésus-Christ est venu nous offrir le repos de l'âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La suite du passage dit, au verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Quand Jésus-Christ entre dans une vie, ce n'est pas le Dieu bonbon dont vous avez entendu parler ou qu'on aime à concevoir, à imaginer, qui nous attend de l'autre côté, quelle qu'a été notre vie, puis qui va dire « C'est bon, mon grand, je sais que tu as fait de ton mieux, puis on va tout effacer ça, tous tes péchés, ça finit là. » Ça, il l'offre en Jésus-Christ. Mais il nous demande d'entrer dans cette vie et de le suivre. Voyez-vous, l'image que je voudrais vous donner, c'est que venir à Jésus-Christ, c'est comme entrer et vivre dans une bonne maison. On a tous l'image d'une maison où les parents sont des gens qui ont du bon sens, qui aiment leurs enfants. Dans cette maison-là, les parents, qu'est-ce qu'ils font s'ils aiment leurs enfants? Ils les laissent à eux-mêmes? Partent le matin, puis ils leur disent, les clés sont là, le frigidaire est là, tu fais ce que tu veux, mon grand, je t'aime. C'est ça qu'ils font? J'ai connu ça. Pas ça qu'ils font. Il y a des règles d'amour, de respect, de charité. Il y a des standards dans cette maison. Et toutes ces choses sont l'expression de l'amour de ses parents. Venir à Jésus-Christ, c'est recevoir son repos et c'est recevoir ses instructions. Et ce matin, Viviane, José et Edna, en passant par les eaux du baptême, déclarent « Je viens à toi, Seigneur Jésus, pour recevoir ton repos et pour recevoir tes instructions. Tu m'as commandé de passer par les eaux du baptême pour rendre un témoignage public de mon identification avec toi. Amen, Seigneur, je veux te suivre. » Continue à m'enseigner tes voies maintenant. Vous ne trouverez pas le repos ailleurs. Vous êtes dans la meilleure société pour le chercher ailleurs. Vous avez toutes les chances de le chercher ailleurs. Vous pouvez continuer votre course quelque temps encore et chercher le repos ailleurs. Vous ne le trouverez pas ailleurs. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que ce matin, Dieu touche ton cœur et t'amène à avoir une attitude humble, un cœur d'enfant, pour croire dans la simplicité de l'Évangile, la simplicité de cet amour de Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour toi. Reconnaître que tes péchés t'éloignent de lui et que seul le sacrifice de Christ peut t'amener le pardon. Seul le sacrifice de Christ peut t'amener à être réconcilié avec Dieu. Seul le sacrifice de Christ peut t'amener le vrai repos et l'espérance de la vie éternelle. Si c'est le cas, adopte cette attitude de cœur d'enfant. Dans ton cœur, dis à Christ, « Je viens à toi. Je vais prendre sur mes épaules tes instructions et je vais te suivre, car il n'y a qu'en toi que je vais trouver le repos. » Et tu peux prendre la décision ce matin que tu vas faire partie des prochains baptêmes cet automne, que tu vas te préparer pour les eaux du baptême et que tu vas suivre Jésus-Christ pour marcher dans ses voies. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, personnellement, Yannick Étier, j'ai trouvé en toi le repos de moi-même. Ça a été ça le moment tournant, Seigneur, tu le sais. J'ai trouvé en toi le repos de ma bêtise, de mon péché. Mais j'ai trouvé beaucoup plus que cela, Seigneur. J'ai trouvé un bon berger qui continue à m'apprendre à marcher dans ses voies. J'ai trouvé le pardon de tous ses péchés pour maintenant et pour l'éternité. J'ai trouvé la promesse d'une vie à venir, Seigneur. Seigneur Jésus, tu sais plus que quiconque que tant et aussi longtemps que tu ne t'es pas révélé à moi, que tu ne m'as pas humilié, j'étais trop orgueilleux pour recevoir un message si simple. Mais tu m'as donné dans ta grâce ce cœur d'enfant, Seigneur. Tu m'as arrêté dans ma course et dans ma folie. Et je t'en bénis, Seigneur. Ça fait 17-18 ans, Seigneur, que je marche et que je cherche à suivre tes instructions. Je ne regrette aucun jour, Seigneur. Vers qui d'autre irions-nous, Seigneur? Je te prie de bénir maintenant le baptême de Viviane, de José et d'Edna, Seigneur. De bénir leur marche chrétienne. Sois leur force, accompagne-les. Aide-nous à les entourer alors qu'ils grandissent dans la foi. Et je te prie, mon bon berger, de saisir des cœurs ce matin pour que d'autres s'engagent à te suivre. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Est-ce que, Viviane, tu as reconnu en Jésus-Christ ton sauveur personnel? Est-ce que tu t'engages par la foi, par sa grâce, à le suivre, à lui obéir, à l'avoir dans ta vie comme ton Seigneur et ton Maître?
Oui, je m'engage.
Alors Viviane, sur cette déclaration de foi, sur ta déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors José, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel, comme ton Sauveur personnel?
Oui, de tout mon cœur.
José, est-ce que tu t'engages par la foi, par la grâce de Dieu, à marcher dans ses voies, à lui obéir, à le suivre?
Oui, de tout mon cœur.
Alors, sur ta déclaration de foi, José, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça va, Edna?
Oui, très bien.
Merci encore une fois pour ton témoignage. Edna, est-ce que tu as reconnu en Jésus-Christ ton Sauveur personnel, celui qui est mort sur la croix pour tes péchés?
Depuis toujours.
Edner, est-ce que tu t'engages, par la grâce de Dieu, à marcher dans ses voies, à le suivre, à lui obéir?
Je crois fermement tant qu'il va vouloir.
Eh bien, Edner, sur ta déclaration de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.